Eh bien, nous allons encore une fois ouvrir notre petit livre de Ruth au chapitre 1er. Nous allons lire les versets 6 à 22. Ruth chapitre 1er, 6 à 22, avant de lire un texte dans le Nouveau Testament. Puis, elle se leva, elle, Naomi et ses belles-filles, Orpa et Ruth, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté, de loyauté, de solidarité, d'amour envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi, vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. » Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, Éphésiens, chapitre 5, les versets 8 à 14, Éphésiens 5, versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Nous avons constaté ensemble, deux matinées durant, que Naomi n'a pas cherché à masquer la vérité aux autres. Elle ne s'enveloppe pas d'un manteau de respectabilité. Elle vit dans la lumière de Dieu en déclarant publiquement son vide. Et cela nous a amené à souligner que le réveil personnel était la fin de nos excuses. C'est parce que je suis ou j'étais fatigué. C'est parce que le temps était orageux. C'est mon caractère. C'est le diable. Ça, c'est très à la mode. L'autre a commencé. Ou encore, il le méritait bien. J'ai peut-être eu tort. Vous avez remarqué comme nous mettons des peut-être partout. J'ai peut-être eu tort. Nous te demandons pardon pour nos faiblesses. Et ainsi de suite. Allons plus loin, après ce premier R du réveil, pour constater dans les versets 6 et 7 de Ruth 1 plusieurs versets. J'ai dit, puis elle se leva, premier verbe, puis elle se leva afin de quitter le pays. Verset 7, elle sortit. Et ensuite, elle se mit en route pour retourner, pour revenir. En tout cas, au moins quatre verbes, tout d'abord qui sont des verbes d'action, et secondement qui tournent tous autour d'une même idée. Quatre verbes que j'appelle des verbes de rupture. Et le réveil se traduit par une rupture. Rompre avec le passé. Se lever, quitter, sortir, retourner. Dans un livre remarquable sur un des grands réveils de ce siècle, accompagné de nombreuses souffrances, Rwanda, l'auteur de ce livre, qui a vécu lui-même ce réveil, écrit ceci. Le réveil est semblable à un feu de brousse africain, ardent et s'étendant sur le flanc des collines. Tout ce qui se cache dans l'herbe haute, les serpents et les rats, doivent fuir pour leur vie. Le réveil est comme l'orage porteur d'une pluie longuement attendue qui arrive à la fin de la saison sèche et apporte la vie nouvelle à la savane poussiéreuse. Mais avant que ne tombe la pluie vivifiante, des nuages apparaîtront, des arbres se courberont et tomberont sous le vent. Le réveil est comme une fleur splendide et délicate qui ne peut prospérer et fleurir que dans une terre préparée. Le sol et le cœur livré, et le jardin regardant haut vers le soleil. Mais toutes les racines d'amertume doivent être journellement arrachées. Quelle belle description d'un missionnaire qui se servait de tout ce qui l'entourait dans le climat africain. Je ne sais pas s'il vous est arrivé d'entrer dans une cabine téléphonique un soir, il fait nuit, et de chercher dans un petit carnet le numéro de téléphone que vous vouliez faire pour atteindre quelqu'un et puis de pester contre les télécoms en disant qu'ils auraient tout de même pu s'arranger pour qu'il y ait de la lumière dans leur cabine. Et puis vous regardez, il y a effectivement un plafonnier, et vous dites, tiens, c'est en panne. Jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez pas fermé la porte. Fermez la porte. Maintenant, de moins en moins, mais il existait autrefois des ascenseurs qui présentaient moins de systèmes de sécurité. Je pense à une personne qui a voulu monter dans un de ces ascenseurs pour aller très haut dans un grand immeuble afin de rendre visite à quelqu'un. Elle est entrée dans l'ascenseur. Elle a appuyé sur les boutons, elle a suivi les indications, et puis l'ascenseur s'obstinait à ne pas répondre à ses ordres. Alors cet ami, dépité, sortit de l'ascenseur en se disant, eh bien voilà, je vais devoir me taper, il y avait vraiment de la montée à faire. Alors il prend son courage à deux ou trois mains et il s'engage dans l'escalier quand il croise quelqu'un qui s'apprête à entrer dans l'ascenseur qu'il vient de quitter. Et il lui dit, écoutez, n'entrez pas, ça ne sert à rien, l'ascenseur est en panne. Alors la personne, qui était un habitué de l'immeuble, qui semblait habiter dans l'immeuble, dit, écoutez, c'est pas possible, il y a quelques instants, je l'ai emprunté, cet ascenseur. Alors, la personne entre quand même dans l'ascenseur, dit, écoutez, venez, on va bien voir ensemble. Et une fois dans l'ascenseur, la personne appuie sur le bouton et l'ascenseur monte. Vous savez que dans ces moments-là, on peut être un petit peu gêné, hein, quand on a annoncé une nouvelle qui n'était pas vraie. Et alors, l'ami de dire, mais comment est-ce que vous avez fait? Eh bien, voyez-vous, dans cet ascenseur, il y a deux portes. Vous aviez bien fermé une porte, mais l'autre de l'autre côté était mal fermée, parce que l'ascenseur donné simplement sur deux colonnes. À la fois, il y avait donc un palier de part et d'autre, et pas les systèmes de sécurité actuels, ce qui fait qu'effectivement, il fallait fermer les portes des deux côtés. Et il y a comme ça des décollages qui ne s'opèrent pas, et des lumières qui ne jaillissent pas. Parce que il n'y a pas toujours dans nos vies, au moment où cela est attendu de Dieu et où le Saint-Esprit travaille, ces gestes qui sont comme des gestes de rupture. Il me souvient d'un congrès en région parisienne où je me suis rendu derrière l'estrade rapidement dans les toilettes et j'ai découvert les toilettes qui étaient peut-être les toilettes les plus petites de France. En tout cas, il fallait s'y glisser. On avait vraiment négocié avec le peu de place qu'il y avait, mais pour avoir quand même ce lieu très important dans une salle. Et je me suis donc glissé dedans, et bien entendu, avant de refermer la porte, j'ai essayé de trouver l'interrupteur, et il n'y avait pas d'interrupteur. Alors j'avais quelques hésitations quand même, parce que c'était tellement petit de surcroît. J'ai fermé la porte, et j'étais dans le noir. Alors j'ai rouvert, j'ai regardé comment c'était fait. Et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais faire très attention. J'ai refermé la porte, j'avais vu finalement où était le verrou de fermeture pour être chez moi. Et c'est seulement quand j'ai tourné le verrou de fermeture que la lumière s'est allumée. Fallait le savoir. Et c'était très suggestif. L'importance des ruptures. L'importance de couper de manière absolue avec ce qui est moabite. Je relisais ces derniers jours l'histoire d'un autre réveil dans les Écritures. Le réveil de Jojo la Colombe. Vous connaissez Jojo la Colombe, on en a parlé il y a quelques jours. Jonas, qui devient rétrograde dès l'instant où il désobéit au mandat que Dieu lui confie d'évangéliser Ninive, la sanguinaire. Et on le voit qui descend d'ailleurs toujours plus bas dans l'histoire, qui s'installe finalement à fond de cale dans un bateau qu'il a peut-être d'ailleurs lui-même affrété, il semble, d'après le style du texte, qu'il a peut-être même lui-même loué la totalité du bateau pour lui, si vous voulez. Il s'installe là au fond de cale et il s'assoupit. Et puis le processus du réveil commence, n'est-ce pas? Dans lequel Dieu va se servir non seulement de la tempête, mais aussi des marins, des salés, comme dit le texte original, qui vont le secouer, le réveiller, qui ne comprennent pas comment cet homme peut être là à fond de cale et dormir pendant que se passent des choses tragiques. Ils vont le bourrer de questions. Et finalement, Jonas va reconnaître. Ça commence par là. Il reconnaît, il leur dit, je suis hébreu, voilà, je fuis loin de l'Éternel. Ils vont entendre vraiment la juste version de l'histoire rétrograde de cet homme de Dieu. Et puis, tout va de plus en plus mal. Il a reconnu, tout le monde est au courant sur le bateau, mais la tempête est de plus en plus forte et on lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Maintenant, nous savons que tu es coupable dans cette histoire. Et alors Jonas a là, d'une certaine manière, beaucoup de courage. Il dit, écoutez, puisque je suis le coupable, eh bien jetez-moi à l'eau. Jetez-moi à l'eau. Et il n'est pas dit qu'il s'est mis en maillot de bain et qu'il est plongé, c'était peut-être un peu difficile. C'est notre nature humaine, hein, là. Il avait besoin d'un coup de main. Il avait besoin qu'on le jette. Il y a des moments où c'est comme ça, dans le réveil aussi. On a besoin d'être aidé dans nos ruptures. On a parfois besoin d'aller vers quelqu'un d'autre pour partager certaines situations. Non seulement pour reconnaître, mais pour être aidé, pour savoir comment faire pour rompre, parce qu'il y a des ruptures qui sont difficiles à vivre, qui coûtent, qui peuvent d'ailleurs parfois nous amener devant les tribunaux. Il y a dans l'histoire de l'Église, hier et aujourd'hui, de nombreuses situations d'hommes et de femmes qui, soit se tournant pour la première fois vers Dieu, soit revenant vers le Seigneur qu'ils avaient abandonné, ont eu besoin de reconnaître, de déposer de très lourds fardeaux et d'être aidés parce qu'ils s'étaient mis dans des situations tellement compliquées, au regard de la loi, etc., n'est-ce pas, qu'ils avaient besoin d'être aidés pour pouvoir revenir au bon endroit, revenir au Seigneur. C'est ce que Jonas a fait. Il reconnaît et on l'aide à plonger. Et la rupture est importante parce que, là encore, je le redis, il est facile pour certaines personnes de simplement reconnaître. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité que d'autres à dire « Mais oui, c'est vrai, ça ne va pas. » Et qui vont même vivre une sorte de délice de la reconnaissance. Du matin au soir, ils reconnaissent que ça ne va pas, mais on ne voit jamais rien changer. Ils semblent simplement satisfaits de pouvoir dire, c'est presque une légion d'honneur qu'ils se fabriquent. Moi, au moins, je suis quelqu'un qui sait reconnaître mon péché. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils refusent de rompre. Ou encore, ils entrent dans le processus de rupture, mais ils rompent sans rompre. Nous l'avons dit, l'ennemi essayera de caricaturer chaque étape du réveil dans nos vies. Je pense à ce gamin de 9 ans, kleptomane, très habitué au vol, et qui désirait vivement être guéri de sa manie de voler. Alors il pria Dieu en disant, « Mon Dieu, j'en ai assez d'être un voleur. Avec ton aide, je m'engage aujourd'hui. Je ne volerai plus. » Et il ajoute comme dans un souffle, « Je ne volerai plus que 5 francs par semaine. » Notre problème, c'est que nous voulons souvent être libres sans être privés de ce qui nous tient captifs. Et voyez-vous, Naomi aurait pu reconnaître sa situation. Elle aurait pu verser des seaux de larmes en terre moabite. Elle aurait même pu prier toute sa vie et de tout son cœur en Moab, même prier pour le réveil en Moab, sans que cela change quoi que ce soit. Et je suis persuadé que nous touchons là au plus grand des problèmes de cet élan de prière qui marque certains croyants en France, pour ne citer que la France, pour le réveil. Oh, on est prêt à prier pour le réveil. Mais on n'est pas prêt à vivre de manière conséquente avec le message du réveil dans les Écritures. C'est-à-dire, on n'est pas disposé à rompre. Et à tous les échelons de l'Église de Jésus-Christ, que ce soit à ceux qui ont de grandes responsabilités de notre pays, comme le plus humble membre de l'Église, le problème est le même. Nous aspirons à un réveil. Ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous voyons même dans certains de nos déplacements ailleurs, nous secoue, nous parle. Mais nous ne sommes pas prêts à faire l'acte de rompre. Et Naomi serait morte en Moab, avec Élimélec, si elle n'avait pas fait l'acte de rompre. Et j'irai simplement jusqu'à dire ceci, c'est que certaines de nos prières peuvent être répréhensibles dans ce domaine. Vous avez, dans Josué au chapitre 7, une prière répréhensible. Une prière qui conduit Dieu à un moment donné à dire « ça suffit ». Il y a des moments quand on prie, même quand on verse des larmes, à un moment donné Dieu dit « ça suffit ». Ça suffit parce que tu peux encore continuer pendant des heures et des jours, et tu peux encore jeûner, tu peux acquérir un tas de médailles, te considérer comme homme et femme de prière, sincère. Mais en réalité, l'heure de prier est dépassée. Parce que tu sais pertinemment qu'il faut faire quelque chose de plus et tu ne le fais pas. Regardez dans Josué 7, à l'issue de cette défaite terrible, d'Aï, c'est une onomatopée, n'est-ce pas, de ces cris qui correspond au nom de la cité, ça tombe très bien, Dieu fait tout pour qu'on retienne sa parole. Aï, le courage du peuple fondit et devint comme de l'eau. Verset 5, à la fin du verset 5. Verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Que feras-tu pour ton grand nom ? » C'est une prière très spirituelle. C'est une prière qui a même l'avantage d'être théocentrique. Elle est centrée sur l'honneur, sur la majesté, sur la gloire de Dieu. Si souvent, nos prières ne sont pas théocentriques. Et pourtant, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi « Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit, et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, etc. » N'est-ce pas ? Voyez, l'intervention énergique de l'Éternel, qui en quelque sorte dit à Josué, « Écoute, vous étiez prévenu que ma bénédiction cesserait d'être sur vous, que ma main cesserait d'être avec vous et sur vos ennemis à partir du moment où il y aurait un interdit. Donc inutile de prier, pendant des semaines et de déchirer ses vêtements, etc. Non. Il arrive un moment où après s'être humilié et avoir reconnu, eh bien il faut aller simplement plus loin. Dans 2 Chroniques 7, 14, un de ces autres grands textes mis en musique sur le réveil, il est écrit « Si mon peuple... » Il me semble qu'il faudrait s'occuper un petit peu des petits, si vous êtes bien gentils. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. » Puis ça va plus loin, n'est-ce pas ? S'il se détourne ou s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est un chant, nous le chantons, nous connaissons ce verset. Qui ne connaît pas dans les milieux évangéliques ce verset, n'est-ce pas ? Remis en valeur par certains mouvements, plus que par d'autres. Et pourtant, il est clair, s'il revient, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et là, nous avons dans ce verset le troisième R du réveil. Et vous remarquez que je passe très vite du deuxième au troisième verbe. Parce que ces deux verbes, les deuxième et troisième R du réveil, sont absolument indissociables. Le troisième R, revenir. S'il se détourne ou s'il revient. Il est intéressant de constater, n'est-ce pas, que les traducteurs ont traduit un peu différemment le même verbe. S'il se détourne ou s'il revient, revenir. Dans le verset 6, il est dit dans Ruth 1:6, n'est-ce pas, qu'elle revint, elle s'en revint, dit le texte, c'est le même mot. Dans le verset 22, ainsi revinrent du pays de Moab. Pourquoi est-ce que Nous passons si vite du deuxième au troisième verbe. Tout simplement parce que, là encore, l'ennemi s'arrange pour focaliser certains croyants, comme certaines églises, comme certains groupements, uniquement sur la rupture. Vous avez des croyants qui ont le culte de la rupture, qui considèrent d'abord le christianisme comme une rupture, la vie chrétienne comme une rupture, la vie de l'Église comme une rupture. Ce sont généralement des croyants, je crois que nous faisons tous à un moment donné ou à un autre cette maladie infantile, mieux vaut la faire petit que grand parce que c'est toujours moins grave en conséquence, comme les maladies d'enfants, et qui consiste à, dans notre soif de marcher de tout notre cœur avec Dieu, à nous installer dans une sorte de sanctification hyper négative, n'est-ce pas ? On s'installe dans un ghetto. On veut absolument rompre avec le péché. On vit une sanctification très négative. Là où dans les Écritures, de toute manière, la sainteté a toujours un double pôle, n'est-ce pas ? Il y a un pôle négatif et un pôle positif. Dépouillez-vous, revêtez-vous. Continuellement. Alors on peut être tenté de rompre pour rompre. De la même manière que certains sont prêts à reconnaître et s'installent dans ce culte-là. D'autres vont un peu plus loin et rompent pour rompre. Et s'ils rompent pour rompre, ils sont très fiers de leur rupture. Ils considèrent qu'ils ont bien des mérites parce que tout le monde n'a pas cette capacité de rompre pour rompre. Il faut avoir une sacrée volonté dans certaines situations. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce qui va favoriser la rupture ? Ce qui va favoriser la rupture, c'est ce qui nous est dit dans Ruth 1, verset 6. Elle se leva afin de quitter, car elle a pris. Elle apprend quelque chose. À un moment donné, ça fait tilt dans son cœur. Peut-être que jusque-là, elle hésitait, elle avait du mal, elle se posait un tas de questions, elle alignait des chiffres sur des feuilles de papier, elle se disait, mais il va y avoir ceci et cela et cela encore, comment est-ce qu'on va me recevoir ? Enfin, vous imaginez tout ce qu'on peut se poser comme question au bout de 10 années de séjour pendant lesquels se sont passés tant d'événements. Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Est-ce que j'en aurai encore la force ? Et puis je suis plus usé, je suis plus âgé que ceci et que cela, n'est-ce pas ? J'ai pris des habitudes, je suis bien installé maintenant. Enfin, on peut imaginer un tas de choses, n'est-ce pas, dans nos vies. Mais il nous est dit, elle se leva afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain, que le Seigneur s'était occupé de son peuple. Ce qui favorise la rupture dans ma vie, dans ce processus du réveil, c'est ce qui m'attire. C'est ce qui m'attend. C'est le fait que je sais que je peux revenir. C'est la grâce. Comme nous allons le voir, ceux qui rompent pour rompre, généralement, restent sous la loi. Ils utilisent leurs énergies propres. Et ils se gargarisent ensuite de leur rupture. Et généralement, ils secouent les autres en disant « Mais faiblard, tu n'as pas de volonté, toi. Moi, comme ça, j'ai décidé d'arrêter de fumer, pas comme ça, dans l'heure qui suivait, tout était réglé. » Ah, c'est facile. Le réveil, dans les Écritures, c'est un retour. Je peux revenir. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'attend. Il y a quelqu'un qui m'attire. Et je dirais que là, nous entrons dans l'épicentre du message du réveil. Parce que nous allons essayer de voir ensemble ce que c'est que ce retour. Ce vrai retour. Mais avant de le faire, simplement un verset pour corroborer ce que nous venons de dire. Dans 1 Samuel 7, versets 3 et 4, on va lire à partir du verset 2, ce sera encore mieux. 1 Samuel 7, versets 2 à 4, il nous a dit ceci: il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche de l'Alliance avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. 1 Samuel 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Si vraiment vous revenez vers l'Éternel, alors ôtez. Vous voyez le lien entre les deux, hein, dans les Écritures. Vous ne pouvez pas. C'est une paire qui marche bien ensemble. Hein. Si vraiment c'est vers lui que vous revenez, lui, l'Éternel, pas n'importe qui, eh bien alors, que ça se traduise vraiment par une rupture. Le moteur de votre rupture, c'est votre retour. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'histoire est très belle, je n'ai pas le temps de la commenter ici, mais quand on sait que dans les chapitres 4 et 5, en un lieu qui s'appellera Ebenezer, et Ebenezer, vous savez que c'est un mot qui, ou ce sont deux mots, un mot composé qui est porteur de promesses, hein, que de lieux se sont appelés Ebenezer. Hein, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, c'est le commentaire d'Ebenezer. Eh bien, dans ce lieu qui s'est appelé Ebenezer, Israël a connu un moment de vie rétrograde terrible. À cause de son péché, l'Éternel s'est retiré du peuple et ils ont été battus à plate couture par les Philistins, l'Arche de l'Alliance précisément, qu'ils utilisaient comme fétiche en pensant que si l'Arche était là, ben tout irait bien, n'est-ce pas? Et bien malgré la présence de l'Arche sur le champ de bataille, la défaite a été cuisante. Et puis donc 20 ans plus tard, nous venons de lire ce qui se passe et comment le vieux juge et prophète Samuel indique la direction à suivre pour le réveil. Et ce qui est beau, c'est que cette défaite cuisante d'Ebenezer va devenir immédiatement après le lieu d'une grande victoire. En dessous, n'est-ce pas, à partir du verset 7, toujours ces mêmes Philistins qui ont fait bien des soucis à Israël. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Ça, c'est la contestation de l'ennemi quand il y a le réveil, n'est-ce pas? Et à cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer. en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » À l'endroit même où Israël avait connu sa plus cuisante défaite, se dresse désormais un monument de victoire. Tout simplement parce que entre la défaite et la victoire, il y a eu le réveil. On est revenu à l'Éternel. Et revenant à l'Éternel, on a rompu avec le péché. Le réveil est toujours un retour à un endroit que l'on a quitté. Et là, je suis frappé de voir combien ce mot « revenir », n'est-ce pas, est un mot fort dans les Écritures. Regardez, tout à fait au début du livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 3, par exemple. Jérémie, chapitre 3, verset 10 à 14. Jérémie 3, 10 à 14. Malgré cela, malgré l'intervention de Dieu, le châtiment, la perfide Juda, sa sœur, la sœur de Samarie, du royaume du Nord, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion, il dit, « Mais reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. » Vous voyez, ces verbes sont là, hein, partout. Hein. « Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert. » Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et on peut continuer, hein, au début du chapitre 4, même chose, n'est-ce pas? Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, et tout de suite, la rupture aussi, hein. Si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant, etc. Voyez ce mot qui revient partout. Et très souvent, le mot « revenir » est associé dans les Écritures à un autre mot-clé. Se lever. Lève-toi. 200 fois, au moins, plus de 200 fois dans l'original hébreu de l'Ancien Testament. Lève-toi. Il se leva, ils se levèrent. Verbe qui revient dans l'histoire du fils prodigue. Hein? Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Vers mon père. Ce qui a donné au fils prodigue la force de la rupture, c'est qu'en réalité, il connaissait son papa. Oh, il ne connaissait peut-être pas toute la miséricorde de son papa, parce qu'il fallait cette situation de crise pour qu'il mesure combien son papa l'aimait. Mais le papa, c'était quelque chose. Vous savez, c'est un grand enseignement pour nos vies de famille aussi. Pour nos relations avec nos enfants. En tant que parent. Qu'est-ce qui fait que si l'un de nos enfants s'égare, il va pouvoir rompre et revenir vers nous? La condition, il faut que notre maison soit ouverte. Et il faut que notre cœur soit ouvert. Il existe une sévérité excessive et mal placée en contraste avec un laxisme tout aussi démesuré, et qui consiste, lorsque tel ou tel enfant s'éloigne, entre dans des attitudes que réprouve le Seigneur et que réprouvent des parents qui aiment le Seigneur, on entre dans ce type de sévérité qui consiste à fermer son cœur et à fermer sa maison. Et bien sûr, le jour où l'enfant est dans cette situation du fils prodigue, eh bien, le problème, c'est qu'il ne réussit pas à dire « j'irai vers mon père ». J'irai vers mes parents, j'irai vers maman. Parce qu'on lui a tout fermé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, mais il va ailleurs. Et il va souvent, dans ces situations-là, vers des personnes qui donnent de mauvais conseils. Parce qu'il ne peut pas aller vers les siens, vers ceux qui l'ont engendré. Vous voyez, c'est important cela. Alors je bénis de ce que, avec Dieu, ce soit différent. Lorsque je m'éloigne de Dieu, je sais, ça c'est la recette de Dieu, n'est-ce pas, à nouveau ? Je sais que lui ne change pas. Je sais que la porte de son cœur m'est toujours ouverte. Je sais très clairement ce que Dieu pense. Je sais très bien que ce que j'ai fait lui déplaît. Mais je sais qu'à tout moment, je peux revenir. Je peux revenir dans une attitude de rupture. Pour moi, c'est un des messages les plus extraordinaires des Écritures. Vous avez l'histoire d'Abraham, nous nous sommes longuement penchés sur cette histoire l'année passée. Abraham qui s'installe dès l'aube de sa vie, en l'éternel, nous dirions en Christ aujourd'hui, alors qu'il parcourt le pays de la promesse, encore aux mains de l'ennemi, et qu'il dresse des autels, il se précipite dans les bras de l'Égypte, à cause d'une situation de famine. C'est intéressant l'unité des Écritures, hein. Et le début de Genèse 13, après le mensonge de l'Égypte et tout ce qu'il engendre, c'est cette phrase, n'est-ce pas ? Abraham remonta par étapes du Négev jusqu'à Bethel, maison de Dieu, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement. Là où le Seigneur s'était présenté à lui, lui disant, tu vois, coucou, me voilà. Je t'ai dit, va-t'en, et j'étais devant toi. Viens-t'en, nous avions vu l'an dernier que la véritable signification était là. C'était pas tellement va-t'en, hein, c'était viens. Dieu l'attendait. Et quand il y a eu réveil dans la vie d'Abraham, il y a eu rupture, et Pharaon a dû aussi donner un coup de main. Oh, le monde, ce monde que nous chérissons parfois, idolâtrons, parfois nous donne des coups de pied de la part de Dieu dans les fesses, pardon de le dire comme ça, pour nous jeter à nouveau dans les bras du Seigneur. Et il est remonté, et il a dressé sa tente, et il s'est prosterné là, dans la présence de Dieu, devant l'autel. Naomi est revenue dans trois domaines. Naomi est revenue dans trois domaines. Le retour de Naomi est fait de trois dimensions. C'est un retour sérieux. Parce que là, une fois de plus, et je souhaite que Dieu
creuse ce message dans nos cœurs. Une fois de plus, l'ennemi va contester le retour. Il va essayer d'affaiblir ce retour, de caricaturer ce retour. Alors, il y a un enseignement ici très fort sur l'importance d'un retour sérieux. Nous l'avons vu d'ailleurs dans Jérémie chapitre 3, n'est-ce pas? Dans Jérémie chapitre 3, verset 10, c'est un grand reproche de la part de l'Éternel qui dit « Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. » C'est avec fausseté qu'elle l'a fait. Voyez, on peut revenir même à l'Éternel avec fausseté. Et il y a dans les Écritures un roi qui a connu dans sa vie un réveil personnel qui l'a conduit à entreprendre une réforme. Il a essayé d'entraîner tout le peuple de Juda dans son réveil personnel, entreprenant des réformes, mais hélas, le peuple de Juda était arrivé à un tel point de régression qu'il y a eu en quelque sorte échec en cours de route. C'est le roi Josias. Et Josias, il nous est dit de Josias, dans 2 Rois 23-25, ceci avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel, toujours le même langage, hein, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Donc il serait intéressant, nous n'allons pas le faire, puisqu'il y a similitude finalement dans la structure de tous ces récits, parce que c'est toujours la même pensée de Dieu, et que Dieu est un Dieu qui n'est pas incohérent dans sa pensée, n'est-ce pas? Et nous pourrions voir en quoi consiste ce retour à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et selon toute la loi de Moïse, sur la base de la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est très beau ce retour de Josias. Premièrement, dans le réveil, on revient toujours, tout d'abord littéralement dans un lieu, pour l'histoire de Naomi, et cela va de soi. Naomi est revenue à Bethléem. Elle est revenue à Bethléem Ephrata. Et le réveil est toujours un retour à Jésus-Christ. Alors vous allez me faire cette réflexion, mais faut-il le dire? Est-ce que cela ne va pas de soi? Est-ce que nous allons recommencer notre processus puisque nous avions longuement parlé de Bethléem? Vous vous en souvenez? Eh bien oui, faut y revenir. Parce que c'est souvent là que nous avons des problèmes. Le réveil est un retour à la maison du pain d'abord. Une relation verticale doit être restaurée. Et dans le prophète Osée, c'est incroyable ce que le prophète enfonce ce clou là. J'ai compté près d'une dizaine de mentions de retour dans le livre du prophète Osée, et toutes ces mentions indiquent que le retour doit d'abord s'effectuer vers Dieu. Toutes. Alors on va prendre ces textes rapidement pour que le Seigneur en remplisse notre cœur. Donc Osée, chapitre 2, verset 9. Nous avions lu d'ailleurs toute la partie précédente, mais on peut reprendre le début du verset 9. Donc Osée 2, 9.
l'adultère, la prostituée, Israël poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira,
j'irai
et je retournerai vers mon premier mari. Et elle ajoute, car alors,
j'étais plus heureuse que maintenant. Vous savez, on a l'impression que c'est Naomi qui cause. Hein? C'est exactement le même langage. Comblée, j'étais partie. Heureuse, j'étais partie. J'étais plus heureuse avant que maintenant.
Je retournerai vers mon premier mari.
Le premier. Parce qu'on peut retourner ailleurs. Hein? On peut retourner à la maison du pain, comme on va le voir, mais on peut aussi aller à l'épicerie d'à côté, là où il y a un dépôt de pain, simplement. Non, non. Il faut aller chez le boulanger. Mais on va voir.
On va y venir. Allons un peu plus loin, chapitre 3, verset 5. Après un message très douloureux, n'est-ce pas, il est dit au verset 4, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans théraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi.
Et là, il y a un texte prophétiquement très beau, un texte messianique. Il y a là le Messie qui pointe à l'horizon.
Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté, de son bien littéralement, dans la suite des temps.
Et là, je le crois, ce texte n'est pas encore parfaitement accompli. Il l'est à l'échelle individuelle, chaque fois que quelqu'un, à titre personnel, du sein du peuple juif, se tourne vers Jésus-Christ. Mais il ne l'est pas encore dans la réalité nationale de la vie du peuple d'Israël. Ça, c'est encore quelque chose qui est devant nous. Et qui peut venir très vite, maintenant.
Si nous allons plus loin encore, au chapitre 6, les premiers versets, quatre premiers versets, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons,
connaissons. » Nous savons ce que ça veut dire hein, maintenant, « connaissons hein. ». Cette génération du temps des juges qui ne connaissait pas l'Éternel.
Aimons, entrons dans une relation intime, partageons avec lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie
après la sécheresse. Hein?
Comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
Et nous sommes tentés de dire Alléluia. Quelle juste attitude. Que de belles paroles. Orthodoxe concernant le réveil. Et là, s'il y a un hic, c'est le verset 4. C'est la réponse de l'Éternel à ses paroles.
Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda?
Votre piété, votre recette, votre loyauté envers moi, votre solidarité envers moi, votre engagement dans l'alliance envers moi,
elle est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche.
Vous voyez le problème? Le problème du temps d'Osée, dans ces années qui ont précédé de peu le départ en déportation, en captivité de ce royaume du Nord, c'est qu'on avait un langage de réveil à la bouche.
Venez, revenons.
On avait un langage très orthodoxe. Mais ce langage très orthodoxe concernant le processus du réveil ne trompait pas Dieu. On avait un langage qui ne correspondait pas à la réalité. On en était arrivé à un tel état, l'esprit de prostitution était là, hein, on l'a vu. Alors on avait encore le langage, mais on n'était pas prêt à vivre la réalité. Le retour n'était donc pas sérieux. Si vous allez au chapitre 12 et au verset 7, « Toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, la recette. » C'est intéressant, c'est encore notre mot, il est là, il est souvent dans le livre du prophète Osée. « Garde la piété et la justice et espère toujours en ton Dieu. » Et si vous allez enfin au chapitre 14 et dans les deux premiers versets, un des plus beaux chapitres de toute la Bible pour les rétrogrades. Osée 14, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Mais, sous-entendu, ne reviens pas n'importe comment. Osée s'empresse d'ajouter de la part de Dieu, apportez avec vous des parole, c'est-à-dire une repentance audible. C'est ça, n'est-ce pas? Pas du blablabla, pas du baratin, hein, il y a un contexte. Apportez avec vous des paroles, une repentance audible, et revenez à l'Éternel, à lui. Et comment est-ce que ça va se traduire, votre repentance audible, ce retour à l'Éternel? Dites-lui. Pardonne, littéralement, dit le texte original, emporte toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Alors ça va se traduire par une rupture, hein? Emporte. Comment est-ce que ça va se traduire dans notre vie, nous, peuple d'Israël, royaume du Nord? Eh bien, nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. C'est-à-dire que nous cesserons d'offrir des sacrifices qui te sont absolument abominables. Nous finirons ce culte formaliste que tu es, parce que nous pensons qu'il suffit d'offrir un animal pour que tout soit réglé entre toi et nous. Comme au temps de Jérémie plus tard, n'est-ce pas? Quand Jérémie dira certaines choses sur la nécessité du réveil, on lui répondra, il le fera devant le temple de l'Éternel, les gens lui répondront, mais c'est ici le temple de l'Éternel, et tout tournera autour du temple, n'est-ce pas? Tant que le temple est là, Dieu est là. Alors Jérémie, indigné, va s'écrier, vous dites, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel. Il dira trois fois. Vous savez, quand dans les Écritures, Dieu dit quelque chose trois fois, c'est le superlatif absolu. Il n'y a pas en hébreu de plus grande puissance dans un message à transmettre que lorsqu'il est répété trois fois. Et dans l'Ancien Testament, il y a des dizaines de passages qui, dans l'original, sont dit trois fois. Une ruine, dira Jérémie ailleurs. Saint, saint, saint est l'Éternel. Alors là, Jérémie fustige ces Juifs qui pensent qu'à partir du moment où on a le temple, n'est-ce pas, où on a des structures religieuses, Dieu est avec nous. Et il va dire, comme Ézéchiel le fera, vous savez, la gloire de Dieu n'est pas attachée à un temple matériel. La gloire de Dieu n'est pas attachée à une salle d'église évangélique. La gloire de Dieu est mobile. Elle est comme un char dans les Écritures, sur lequel l'Éternel se déplace. Et il est capable de quitter un lieu. Il est capable de quitter ce qui était jadis un sanctuaire. La gloire de Dieu peut quitter ce lieu. Ce lieu ne représente rien en lui-même pour Dieu, même s'il y a des cultes tous les dimanches. La gloire de Dieu n'est pas mariée avec un lieu. Heureux le lieu dans lequel la gloire de Dieu est proclamée. Et on peut penser qu'on vit dans la paix de Dieu, dans la sécurité de Dieu, etc., en se gargarisant de mots et d'histoires et de traditions. Parler avec quelqu'un d'entre vous de la gloire des Huguenots, n'est-ce pas? On pense qu'on a la faveur de Dieu parce qu'on a des ancêtres qui sont morts en tant que camisards dans le désert, dans la souffrance, la Bible à la main. Et regardez les temples dans les Cévennes. Hein. Combien ont été détruits, on en a utilisé les pierres pour construire bien d'autres choses. Et il continue, et je termine aussi. Nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. Et quel est l'hommage des lèvres? L'Assyrien ne nous sauvera pas. Vous vous souvenez ce que nous avions dit quand nous avions expliqué l'époque d'Osée dans l'histoire du royaume du Nord? Quel était son problème? Il y avait des factions, n'est-ce pas, dans ce royaume du Nord. Les uns qui disaient « il faut que nous nous soumettions précisément à l'Assyrien. Que nous soyons bien gentils avec lui. » D'autres disaient, non, allons du côté de l'Égypte. L'Égypte nous fait des clins d'œil. Allons de son côté. Et le peuple d'Israël avait oublié que son Dieu, qu'il avait sorti d'Égypte et délivré de la main de tant de païens, était un Dieu puissant. Alors là, dans ce retour, il y a une prise de position. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Fini. Nous ne croyons plus que c'est en restant sous la couverture de l'Empire assyrien que nous allons être protégés. Et puis, nous ne monterons pas sur des chevaux. Il semble que ce soit une allusion à l'Égypte, parce qu'on allait chercher les chevaux en Égypte. Donc le véritable retour vers l'Éternel, c'est la rupture avec un culte formaliste. Et c'est la rupture avec des alliances qui ont été des alliances coupables. Nous avons nos Assyriens, nous avons nos Égyptiens, nous avons nos Moabites. Le réveil, c'est revenir au Seigneur de tout son cœur, et cela se traduit par une rupture. Un dernier texte. Dans le psaume 78, versets 34 à 37, psaume 78, 34, 37, « Quand il, l'Éternel, quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche, il lui mentait de la langue. » Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Voyez, un mauvais retour. Alors nous avons beaucoup insisté ce matin sur l'importance d'un retour vrai et d'un retour d'abord, avons-nous dit, à Bethléem, à Jésus-Christ. Alors demain matin, nous allons expliciter longuement ce que ça signifie que revenir à Jésus-Christ. Ce que ces textes nous enseignent, nous prendrons encore quelques textes de l'Ancien Testament et nous développerons cette pensée, puis nous verrons aussi les deux autres dimensions du retour de Naomi, de manière à ce qu'il n'y ait pas, là aussi, d'amputation et d'avortement en quelque sorte. En cours de route. Mais nous voulons bénir le Seigneur de ce qu'il est possible de rompre, de ce qu'il nous donne la capacité de rompre, dans la mesure où nous revenons vers lui. J'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Nous voulons prier. Seigneur, mon cœur tressaille de joie de réaliser tout à nouveau que je peux constamment revenir vers toi. Vers toi. Merci de savoir que c'est toi qui donne la force de rupture et de ruptures qui paraissent impossibles. Seigneur, aide-nous, apprends-nous à ne jamais dissocier, reconnaître, rompre, revenir. Merci. Merci de pouvoir continuellement revenir à toi. Merci d'enfoncer ce message de ta parole jusqu'au plus profond de nos cœurs, de nos mentalités. Et merci de nous aider à le traduire dans nos actes. Et nous te bénissons parce que ta parole fait du bien à nos cœurs. En Jésus-Christ.